Alors la fête de la Toussaint que nous avons célébrée il y a quelques jours est toujours l'occasion de prier pour les défunts. Et puis on voit apparaître dans les journaux des articles qui nous parlent de la mort souvent. Dernièrement, donc, quelques jours, une revue scientifique de vulgarisation de la science proposait justement une étude sur la mort. Alors on traitait des signes avant-coureurs du décès, des mécanismes de la mort cérébrale ou alors des expériences de mort imminente. Évidemment, il n'était pas du tout question de parler de la résurrection et pourtant, ce dossier évoquait ces expériences de ceux qui, considérés comme morts, ont pu miraculeusement revenir à la vie. L'homme développe des capacités incroyables pour connaître la vie, le fonctionnement du corps, du cerveau, de tous les organes. Et nous savons tous que la médecine a fait des progrès considérables ces dernières années. Mais la question qui nous est posée, qui demeure toujours contemporaine dans cet évangile, c'est la question de la vie après la mort, la résurrection. Comme les pharisiens et les sept frères qui épousent la même femme successivement et qui n'ont pas finalement de descendance. Ils reprennent dans ces lignes de l'évangile de Saint-Luc un cas qui est déjà présenté dans le livre de Deutéronome avec cette question censée mettre Jésus dans l'embarras. À la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse puisque les sept l'ont eue pour épouse ? Alors autant je trouve que la question est un peu embrouillée, alors évidemment c'est un cas d'école, on imagine difficilement cette situation ubuesque des sept frères qui épousent successivement la même femme, et sur un sujet comme la résurrection, on s'attendrait à une réponse encore plus complexe que la question elle-même, mais je crois qu'il nous faut reposer les choses, vous savez, parfois il faut du temps pour ne pas entrer dans le brouillard parce qu'on ne s'en sort pas. En fait, la vraie question ici qui nous est posée, c'est comment envisager la résurrection. Et Jésus veut nous montrer que la foi en la résurrection ne conduit pas à des situations soit nébuleuses, soit absurdes. Il vient nous libérer, mais aussi nous invite à une exigence pour essayer d'entrer dans ce mystère. Alors quand je parle de mystère, ce n'est pas quelque chose d'incompréhensible. Alors, il y avait une émission il y a quelques années à la télévision, c'était les mystères, c'est des choses un peu incompréhensibles que même la science n'arrivait pas à expliquer. Un mystère dans la foi chrétienne, c'est quelque chose de tellement grand qu'on ne peut pas le saisir en un seul regard. Je vais prendre un exemple très concret. Quand on regarde la cathédrale du Mans, on pourrait l'appliquer ici à Notre-Dame-du-Pré, mais on ne peut pas saisir toute la cathédrale d'un seul regard. On peut la regarder d'un côté, de l'intérieur, de l'extérieur, avec un coucher de soleil, une luminosité différente, à chaque fois, elle nous révèle quelque chose de différent. Eh bien, c'est ça un mystère. C'est quelque chose de tellement grand qu'on ne peut pas l'enfermer dans une boîte. Il nous faut toujours et sans cesse approfondir sa compréhension pour rentrer dans une vraie intelligence. Et donc, la résurrection ne peut se comprendre comme une comparaison de notre vie ici-bas en quelque chose d'un peu mieux. Vous savez, comme si tout ce qui était un peu tordu et difficile serait supprimé. Les pharisiens, avec leur représentation, rapprochent les deux vies, la vie que nous connaissons ici-bas, et la mort. Comme si la mort s'était améliorée. Par exemple, on voulait raccourcir les délais de l'enfantement. Alors certains disaient, on ne met plus 9 mois pour avoir un enfant. À la résurrection, il n'y a plus qu'un seul jour. On améliore ce qui est un peu qu'on peut considérer comme des contraintes, on essaie de les supprimer. Jésus nous invite à comprendre la résurrection sur un autre plan. D'ailleurs, il va utiliser une image très simple, c'est celle des anges. Nous sommes invités à entrer dans une autre intelligence où la vie après la mort n'est pas seulement une vie améliorée, mais c'est autre chose. C'est une nouveauté radicale. Et donc, il n'y a plus les contingences de la vie ici-bas. Nous entrons dans un mystère de foi qui peut être vertigineux, mais finalement qui est profondément beau. La résurrection est donc à comprendre dans une perspective de beauté et de grandeur. Et Jésus ne cherche pas à mettre à plat, à supprimer tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Au contraire, il se rattache à cette tradition de ses pères en citant le verset de l'Exode, en citant les patriarches, en montrant que Dieu est fidèle à ses promesses. Son alliance est indéfectible et elle est inscrite dès la Genèse dans la foi d'Israël. L'au-delà est un espace où Dieu nous fait revivre autrement, d'une manière radicale. L'accès n'est pas impossible, mais il passe par la foi. Et croire, comme nous le dirons tout à l'heure dans le credo, c'est pas un aveuglement, c'est une confiance. C'est avoir confiance en Dieu. Nous avons confiance en lui, nous croyons qu'il veut notre bonheur, il veut notre salut, il veut nous sauver et nous entraîne dans cette vie éternelle. Nous connaissons l'amour de Dieu et nous croyons que cet amour ne s'arrête pas avec la mort. Et nous savons ça, nous connaissons ça nous-mêmes. Quand nous perdons un être cher, eh bien, l'amour est toujours là dans nos cœurs. Abraham, Isaac et Jacob sont cités comme des hommes de foi qui ont eux-mêmes participé à cet élan. Ils sont associés à Dieu, ils participent à son salut parce qu'ils lui ont fait confiance. Alors bien sûr, cela ne rentre pas dans les catégories des revues scientifiques, mais c'est une foi, c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Nous reconnaissons que Dieu est créateur et qu'il nous crée non pas pour une vie éphémère, aussi longue soit-elle, il nous veut vivants, il nous a créés pour la vie. Comme ses frères dans la première lecture, qui sont prêts à mourir parce qu'ils savent que c'est par cette fidélité à Dieu qu'ils connaîtront la vie éternelle, une espérance qui les habite. Le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. Et au cours de notre pèlerinage en Terre Sainte, il y a quelques jours, à la fin du mois d'octobre, je pense à deux lieux qui nous rapprochent de cet événement pour nous aider à comprendre la résurrection. Alors ceux qui ont participé au pèlerinage pourront peut-être se représenter cela plus facilement. Le premier lieu, en quittant Nazareth, nous sommes allés au mont Tabor. Le mont Tabor, c'est le lieu que la tradition rapporte comme le lieu de la transfiguration. Vous savez, Jésus, devant Pierre, Jacques et Jean, est enveloppé d'une lumière étonnante avec les patriarches qui sont présents auprès de lui. Et c'est déjà le signe de cet état nouveau, différent, magnifique, lumineux de la résurrection, la transfiguration. L'autre lieu, l'autre signe, au cours de notre pèlerinage, c'est dans les derniers jours, lorsque nous sommes allés au Mont des Oliviers et dans ce lieu de Gethsémani, voilà, où Jésus passe ses derniers instants avec ses disciples avant d'être arrêté. C'est le signe aussi que voilà, notre Dieu n'est pas un Dieu indifférent, il a connu ce passage qui est pour nous encore plein de mystères, mais d'inconnus, mais qu'il l'a vécu avec confiance et avec foi. Voilà, il est passé, il a porté sa croix pour ressusciter. Et nous avons terminé par la basilique de la résurrection. Voilà, Dieu a vaincu la mort, c'est notre foi ce matin. Il nous montre le chemin de la vie. Alors ne nous réduisons pas à des images un peu simplistes. Voilà, je prendrai une autre image pour terminer et je m'arrêterai là. Vous savez, quand vous communiez, vous recevez Jésus dans l'Eucharistie, n'importe qui peut dire, bah, voilà, c'est un petit bout de pain. Voilà, c'est le même petit bout de pain qu'on a apporté, qui était dans le placard de la sacristie tout à l'heure. Ben non, non, nous avons confiance, hein, nous croyons que la parole est vraiment efficace, la parole de Dieu, et qu'elle passe par ce mystère que nous célébrons, et nous recevons vraiment Jésus personnellement dans l'Eucharistie. Alors, c'est un acte de foi, c'est un mystère, c'est un acte de confiance. Amen.